Présence, le grand entretien.
7h40 sur Présence, le grand entretien. Les lycéens de Haute-Garonne sont invités à se former et à échanger sur la vie.
Au cours de 4 soirées, du 14 mars au 4 avril, Alliance Vita propose aux lycéens de réfléchir aux grands enjeux qui concernent la vie. Et pour nous présenter ce programme, je reçois Jean-Marie Barbiche. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes référent régional d'Alliance Vita. En quoi les lycéens sont-ils intéressés par ces sujets qui concernent la vie ?
En fait, ce sont des sujets du quotidien, hein, des sujets qui nous concernent toutes et tous autour de la fragilité, du début de vie, de la fin de vie. Donc, ils sont concernés comme nous tous, en fait. Et c'est important de leur donner à réfléchir sur ces sujets.
Et de fait, c'est une proposition que vous faites tous les deux ans en alternance avec les étudiants et vous constatez qu'il y a un réel engouement.
Tout à fait. Il y a un réel engouement, ça répond à un réel besoin. Et quand on sonde les lycéens, les étudiants qui ont fait cette formation, ils sont vraiment ravis parce qu'ils se sont vraiment sentis nourris par cette formation.
Et puis après, ils en parlent à leurs amis et puis ça fait boule de neige. Comment se déroulent exactement ces soirées du Campus Vita ?
Alors donc, ce sont 4 soirées qui durent 3 heures, qui se déroulent de façon très interactive. En réalité, il y a à la fois des apports de contenu, mais on fonctionne beaucoup, on s'appuie aussi beaucoup sur des vidéos, que ce soit des témoignages ou même des extraits de films, de fiction, qui parfois permettent de faire un pas de côté et de réfléchir à nos sujets. Au milieu de la soirée, il y a un repas qui est compris dans l'inscription. Et puis, il y a toujours des jeux de rôle, des mises en situation, des quiz, des petits exercices pour rendre ces soirées vraiment interactives, vraiment vivantes et faire en sorte que les lycéens soient acteurs de la formation.
Oui, c'est ça, parce que 3 heures, ça peut paraître long, mais effectivement, quand il y a des ateliers et cette interactivité, c'est quand même plus facile à suivre.
Tout à fait.
Et il en reste quelque chose. Alors, chaque soirée a un thème propre. La première traitera du transhumanisme, de l'eugénisme et de la procréation artificielle. Donc là, c'est un gros sujet. Quel contenu souhaitez-vous transmettre aux lycéens ?
Eh bien, l'idée, c'est de les faire réfléchir sur, finalement, quelle société voulons-nous pour demain ? Autour notamment de cette notion de transhumanisme dont on entend parler de plus en plus dans les médias mais qui peut parfois rester un peu flou. Donc cette soirée nous permet de revenir en profondeur sur qu'est-ce qui sous-tend l'idéal, je dirais même l'idéologie transhumaniste autour des nanotechnologies, des biotechnologies. Rappeler aussi qu'il s'agit d'un business mondialisé et s'appuyer sur ce qui existe déjà aux États-Unis. Et puis on les fait réfléchir à la fois sur les promesses du transhumanisme et sur les risques. Et ça fait évidemment écho à l'actualité, et notamment il y a quelques semaines, on entendait pas mal parler de cette série Netflix autour du milliardaire américain Brian Johnson. Donc la série s'appelle Don't Die, l'homme qui voulait être éternel, mais en réalité ça s'appuie sur un cas bien réel, ce milliardaire qui dépense des sommes folles pour repousser les limites de sa longévité. Et vivre le plus longtemps possible. Voilà, mais sauf que derrière, on fait réfléchir les jeunes sur les risques qu'il peut y avoir en matière de remise en cause de l'accueil de la fragilité, accroissement des inégalités entre les riches qui pourraient accéder à cette technologie et les autres, et puis aussi la forme de dépendance dans laquelle ça nous entraîne, dépendance à la technologie.
Oui, donc ça, ce sont les thèmes sur le transhumanisme. Il y a aussi peut-être un exercice que les jeunes doivent faire pour déterminer quelles sont les différences entre l'homme et le robot. Alors, c'est vrai que vu de loin, on se dit, oui, c'est évident. Mais vous les faites aussi travailler sur ce sujet-là ?
Bien sûr, on les fait travailler pour les mettre en situation, notamment avec des argumentations, des concours d'éloquence. Voilà, pour à la fois maîtriser le fond et la forme. C'est aussi un des objectifs du Campus Vita, leur donner à la fois des clés pour comprendre, mais aussi des clés pour s'exprimer.
Oui, c'est ça, parce qu'évidemment, il y a des discussions dans les cours, je ne dirais pas des cours de récréation quand on est au lycée, mais en tout cas, il y a des échanges entre eux et c'est important d'avoir des arguments. Et puis enfin, dans cette soirée, vous les faites aussi réfléchir aux dimensions de l'homme qui échappent au transhumanisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ?
Effectivement, revenir aussi au réel, qui est que malgré les fantasmes d'un Brian Johnson, par exemple, l'homme est toujours limité dans le temps. Fatalement, l'homme doit mourir et... On s'appuie aussi sur un film notamment qui s'appelle Time Out pour finalement montrer si on atteignait ce rêve transhumaniste de l'homme éternel, quelles seraient les conséquences, notamment en termes de surpopulation, très concrètement, comment on gérerait ça. Voilà, les limites aussi voilà, de la fragilité, des maladies qui font que malgré tout ces rêves transhumanistes d'amélioration, d'augmentation, eh bien, on est toujours rattrapé par le réel de notre nature humaine.
Et puis on peut dire que l'âme humaine échappe justement au transhumanisme parce qu'elle est immortelle.
Tout à fait, l'âme humaine, et ça c'est ça c'est quelque chose qui peut être aussi rappelé dans ces soirées, qui est que l'homme est aussi une transcendance qui dépasse la seule enveloppe corporelle entre guillemets sur laquelle à laquelle s'attachent les transhumanistes.
Alors une deuxième soirée, la vie à ses débuts, c'est le deuxième thème abordé par les jeunes au cours du Campus Vita. De quoi allez-vous parler précisément?
Eh bien, on va tout simplement les faire réfléchir, enfin leur présenter les faits, la réalité, c'est-à-dire comment commence la vie, et avec l'objectif qu'ils puissent s'émerveiller sur à la fois la fragilité et la beauté de la vie à ses débuts, avec notamment toutes les étapes de développement de l'embryon. Par exemple, voilà, rappeler que dans les étapes, par exemple, le cœur de l'embryon, il bat dès 22 jours. Après le début de la grossesse.
Et ça, ils ne le savent pas, ils ne l'ont pas appris dans leur cours de biologie?
Absolument pas, ça, c'est pas du tout le genre de détail dans les cours de SVT, ce n'est absolument pas le genre de détail qui leur est apporté. Et on leur montre aussi que ce développement, il est continu. On leur rappelle qu'à 2 mois, l'embryon ne mesure que 4 cm, mais que presque tout est en place, en fait. Et que derrière, eh bien, c'est une croissance qui est continue, il fait juste que grandir et grossir jusqu'à la naissance.
Et comment réagissent-ils quand vous leur dites ça?
Eh bien, justement, ils s'émerveillent, en fait. Ils se disent, on ne savait pas, et pourquoi on ne savait pas, on ne nous a pas dit ça plus tôt. Et puis, ils réalisent à la fois la beauté et la fragilité de l'être humain. Ils réalisent aussi que finalement ils ne sont que des embryons retraités, c'est-à-dire ils sont passés par ces étapes. Donc c'est vraiment ça, moi le mot que je veux garder, c'est l'émerveillement.
C'est ça. Et c'est l'occasion d'aborder toutes les questions de procréation médicale assistée et de gestation pour autrui.
Exactement. Alors déjà, on pose aussi un regard scientifique et juridique sur cet embryon. Qui est-il et qu'en dit la société? On insiste aussi beaucoup sur les interactions mère-enfant, parce que là encore, ils ignorent complètement tout ce qui peut se passer, notamment pendant la grossesse et dans les toutes premières semaines après l'accouchement. Et derrière, ça donne aussi des éléments pour réfléchir sur effectivement ces sujets-là, procréation médicalement assistée. Là encore, on commence par poser les faits, c'est-à-dire quelles sont les techniques utilisées et quels sont leur impact ensuite sur les parents. Là encore, on s'appuie sur des chiffres, pour rappeler par exemple qu'il y a quand même un nombre très important d'embryons qui doit être créé pour aboutir à une seule naissance.
Oui, c'est ça. Pour la gestation pour autrui, vous leur proposez un jeu de rôle assez amusant.
Exactement. L'idée, c'est qu'ils puissent se mettre dans la peau des personnes concernées par ces situations. Et donc, on propose un jeu de rôle. On leur demande de se mettre dans la peau soit des parents d'intention, soit de la mère porteuse, soit du médecin, et pour qu'ils puissent se mettre dans la peau de ces personnes, essayer de ressentir ce qu'ils ressentent, essayer de comprendre qu'est-ce qui peut les amener à rentrer dans ce parcours de gestation pour autrui, et surtout quelles sont les conséquences pour le rôle qu'ils jouent, que ce soit la mère porteuse, le médecin, les parents d'intention, et pour l'enfant, concrètement se mettre dans leur peau pour revenir au réel, revenir au terrain.
Oui, c'est toujours votre maître mot, c'est revenir au réel, on l'entend bien. Alors, la vie, quand elle est inattendue, c'est le grave sujet de l'IVG. Les chiffres ont été dernièrement publiés. 243 600 IVG ont été pratiqués en 2023. C'est 8 600 de plus qu'en 2022. Et c'est donc le sujet de votre troisième soirée. Vous faites notamment au lycéen un point sur les textes législatifs. Pourquoi, Jean-Marie Barbie?
Eh bien, c'est important de replacer de refaire le point sur l'histoire de l'IVG dans notre pays, depuis la loi Veil en 1975, et ensuite toutes les différentes étapes qui ont contribué depuis 50 ans à aggraver l'IVG et à augmenter le recours. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, vous avez cité les chiffres, ça représente quasiment une IVG pour 3 naissances. C'est un chiffre qui est absolument énorme et qui est nettement supérieur à nos voisins européens. Pour vous donner un ordre d'idée, le taux d'incidence de l'IVG, c'est 16,8 IVG pour 1000 femmes en France. Chez nos voisins italiens, belges par exemple, c'est 8 pour 1000, donc c'est deux fois moins. Donc c'est pour les faire réfléchir sur ça, sur pourquoi en France on a cette particularité, pourquoi aussi en France on a ce paradoxe contraceptif qui fait que 72%, enfin on constate, et, enfin quand je dis on constate, c'est l'État qui constate que 72% des femmes qui ont eu recours à l'IVG étaient sous un contraceptif efficace. Voilà, donc c'est là aussi un chiffre qui interpelle parce qu'on nous présente trop souvent la contraception comme le moyen, l'unique moyen de prévenir l'IVG. En réalité, on voit bien que c'est pas le cas. Donc on fait réfléchir les jeunes sur tout ça et on s'appuie notamment sur les témoignages qu'on reçoit dans notre service d'écoute SOS Bébé.
Oui. Et donc, grâce à ces témoignages, vous faites réfléchir les jeunes sur ce que eux ils peuvent faire à leur place. Et puis, est-ce qu'ils prennent conscience aussi de la souffrance des femmes dans ces cas-là ?
C'est l'idée, alors, et encore une fois, l'idée de revenir au réel. C'est-à-dire que l'IVG, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un concept. Ce sont derrière des situations individuelles extrêmement douloureuses qu'on essaye d'accompagner par nos services d'écoute à Alliance Vita. Donc, ce service SOS Bébé, il n'est pas dédié à ça, mais on reçoit des femmes confrontées à ça. Et donc, on fait réfléchir les jeunes à des cas réels pour qu'ils puissent aussi se rendre compte, là encore, de ce que c'est vraiment. Et encore une fois, sans aucun jugement sur les personnes, mais vraiment pour être dans le réel.
Et enfin, la dernière séance du Campus Vita, donc, qui aura lieu le 4 avril, elle porte sur la fragilité, handicap, dépendance, fin de vie. Et vous posez cette question, est-ce encore la vie ? Alors, c'est vrai que c'est une question d'actualité brûlante parce qu'il y a deux textes distincts sur la fin de vie qui vont être débattus du 12 et 19 mai. Comment abordez-vous cette thématique ?
Alors déjà, là encore, on essaie de leur donner des éléments de réflexion. Notamment, on travaille sur la question de dignité, qui est souvent un terme employé dans le débat sur la fin de vie. En leur expliquant par exemple la différence qu'il y a entre une conception entre la dignité, une conception ontologique de la dignité et une conception posturale, c'est-à-dire la dignité qui serait intrinsèque à l'homme dans la conception ontologique, alors que aujourd'hui trop souvent on met en avant dans le discours une dignité posturale, c'est-à-dire qui dépend des capacités l'être humain. Et en fait, les deux sont complémentaires. Nous, ce qu'on leur rappelle, c'est que l'homme, de toute façon, est digne. Mais après, ce qui est important, notamment dans les situations de fragilité et dans les situations de fin de vie, c'est quel regard on porte sur les personnes, parce qu'il y a des regards qui, effectivement, peuvent donner aux personnes le sentiment qu'elles perdent leur dignité. Alors que c'est important de rappeler, de faire prendre conscience aux jeunes que non, que ce soit le bébé ou la personne âgée ou la personne en situation de handicap dans son fauteuil, tout le monde a une égale dignité.
Et est-ce que c'est l'occasion, pendant cette séance, de faire un petit point de vocabulaire sur les termes qu'on entend aujourd'hui sur les questions de la fin de vie ?
Bien sûr, on travaille dans le détail. Quand on dit euthanasie, de quoi parle-t-on ? Suicide assisté. Et puis, on travaille aussi sur les soins palliatifs. Qu'est-ce qu'il y a derrière les soins palliatifs ? Et des termes assez techniques aussi, comme la sédation, la notion de sédation, qui est déjà au cœur de la loi Claeys-Leonetti de 2016, eh bien, cette notion de sédation, on leur explique quels sont les enjeux derrière.
Oui. Et enfin, pour cette séance, vous insistez notamment sur les conséquences de l'euthanasie. Est-ce que vous pouvez nous les donner ?
Bien sûr, les conséquences de l'euthanasie, il y en a beaucoup et on les voit aussi dans notre service d'écoute SOS Fin de Vie. Ça nous remonte déjà et on s'appuie aussi sur les exemples, les quelques exemples étrangers qui ont déjà légalisé l'euthanasie. C'est la rupture de la confiance entre soignants et soignés. Est-ce que demain on pourra s'autoriser à dire « Docteur, j'en peux plus » sans se voir proposer une euthanasie alors que c'est juste un appel à l'aide? Comment ça va se passer dans les familles, des familles qui risquent de se déchirer autour de fins de vie compliquées,
entre ceux qui soutiennent la demande d'euthanasie de leur
bien sûr,
de leur proche.
Exactement, il peut y avoir ce genre de questions. L'euthanasie aussi, toutes les pressions sociales qui vont amener à l'euthanasie. Et puis, là encore, les risques d'exclusion. Une personne qui sera fragile, en situation de handicap lourd ou en fin de vie, elle dira « Mais est-ce que j'ai le droit de continuer à vivre ? Est-ce que finalement, il ne faudrait pas que je demande l'euthanasie, puisque c'est possible et puisque dès maintenant, là, dans les médias, on met en avant certaines pathologies où des personnes disent « Moi, j'ai cette pathologie, j'aimerais pouvoir partir. » Mais il y a d'autres personnes qui disent « J'ai cette pathologie, j'aimerais pouvoir être soigné. » accompagner. Bien demain, un des risques de cette légalisation, ça sera d'exclure ces personnes-là. Donc on fait réfléchir les lycéens sur tous ces enjeux qui sont trop souvent, à notre avis, occultés du débat en cours, malheureusement.
Voilà, ce sont quatre vendredis, les 14, 21, 28 mars et 4 avril, de 18h45 à 21h45 au couvent des Dominicains. Des inscriptions sur le site d'Alliance Vita. Merci Jean-Marie Barbiche.
Merci beaucoup.